la vérité. Alors il lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix et sois guéri de ton mal. Il parlait encore. Quand des gens arrivèrent de chez le chef de la synagogue et lui dirent, ta fille est morte. Pourquoi déranger encore le mort? Dès qu'il entendit cette parole, Jésus dit au chef de la synagogue, n'aie pas peur, crois seulement. Et il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit du tumulte, des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous ce tumulte et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Ils se moquaient de lui. Alors il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où l'enfant était. Il la prit par la main et lui dit, Talitha Koumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher car elle avait 12 ans. Ils furent aussitôt remplis d'un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne le sache et demanda qu'on donne à manger. Entre Dieu, notre Père, comme nous l'avons chanté, nous voulons entendre ta parole. Nous voulons nous laisser inspirer par toi. Nous te demandons de nous donner des cœurs ouverts à entendre ce que cette parole nous dit. Je te demande, Père, pour ma part, de m'aider à être fidèle dans le commentaire que je fais. Parle, Seigneur, à nous donner. Il y a une chose que l'immense majorité des êtres humains supportent mal, assister à la souffrance d'un enfant. Nous avons parlé plutôt de la petite Erin, de la situation dramatique. On a pu voir aux informations récemment après cette attaque en Syrie des images difficilement soutenables d'enfants qui souffrent. Voir un enfant souffrir sans pouvoir l'aider, ou pire, voir un enfant menacé par la mort qui, normalement, ne devrait pas être à l'horizon pour lui ou elle pour longtemps, c'est quelque chose qui nous bouleverse. Et à combien plus forte raison quand il s'agit de ses propres enfants. Nous sommes à quelques pas de l'hôpital Necker, les meilleurs hôpitaux de France, peut-être du monde pour les enfants malades. À part quelques-uns d'entre nous qui sont exposés de plus près à cela, notamment l'une d'entre nous qui y travaille, nous imaginons sans doute qu'à peine l'épreuve traversée par ces parents qui se demandent si leur enfant verra le lendemain. Et l'histoire de la fille de Jaïrus nous bouleverse peut-être particulièrement pour cela, parce qu'elle concerne une enfant. Pour autant, il ne faudrait pas négliger l'autre histoire que Marc à placer, si j'ose dire, comme en sandwich, au milieu des deux moitiés de l'histoire de la fille de Jaïrus. Le récit de cette femme atteinte d'une hémorragie, une maladie qui dure, petit clin d'œil du texte, depuis aussi longtemps, 12 ans, que la vie de la fille de Jaïrus. Et donc, ça renforce le fait que ces deux épisodes se télescopent en quelque sorte et vont nous révéler encore plusieurs aspects de la personne et de l'œuvre de Jésus. Je propose de résumer l'idée centrale de cet extrait par cette phrase. La vie en Jésus est plus forte que la souffrance et la mort. La vie en Jésus est plus forte que la souffrance et la mort. Nous y réfléchirons en deux temps. D'abord le Dieu disponible et puis le Dieu de l'impossible. D'abord donc le Dieu disponible. Quand j'étais en première année d'études universitaires, c'était à la fin du siècle dernier, il y avait un jeune homme qu'à l'époque, on décrivait déjà par ce néologisme, un geek. En l'occurrence, quelqu'un qui était exceptionnellement doué en maths et en informatique, mais, pour ce qui le concernait, peu à l'aise dans les relations humaines. Et je dois dire que ce jeune homme était souvent l'objet de moqueries, un comportement parfois un peu particulier. Et à ma honte, je dis sérieusement, à ma honte, je n'ai pas toujours résisté à la tentation à l'époque de me joindre à ses moqueries. Mais un jour, je me suis trouvé face à un problème informatique insoluble pour moi. Et je devais terminer un travail pour le lendemain. Je suis descendu dans le hall de la résidence. Je sais pas ce que je suis tombé, ce jeune homme. Je lui ai demandé s'il pouvait venir voir mon ordinateur. Je me rappelle qu'il n'a rien dit, il s'est juste levé, il m'a suivi. Il est assis devant mon ordinateur 5 minutes. Il a tout réglé et il est reparti sans un mot. Dans le premier épisode que nous raconte Marc ici, on peut facilement passer à côté d'un détail du texte et qui pourtant a toute son importance. Jaïrus, verset 22, quel est son CV, qui est-il? C'est l'un des chefs de la synagogue. Or, on voit depuis quelque temps, en parcourant l'évangile de Marc, que l'élite religieuse, y compris une petite élite locale, si on peut dire, est de plus en plus hostile à Jésus. Et c'est au point que, on a vu au chapitre 3, verset 6, que les pharisiens et les hérodiens, deux factions qui normalement ne s'appréciaient pas particulièrement, et c'est le moins qu'on puisse dire, eh bien, ils sont déjà en train de discuter ensemble pour faire mourir Jésus. Pas pour lui mettre des bâtons dans les roues, donc le faire mourir. Alors, il n'est pas dit, certes, que Jaïrus faisait lui-même partie de ces comploteurs. Mais il y a tout de même un contexte qu'on ne peut pas ignorer lorsqu'on lit ce texte. Et ça nous dit l'énergie du désespoir qui anime cet homme, qui, au moins, côtoyait sans aucun doute ceux qui voulaient déjà tuer Jésus, mais qui, dans une situation critique, se précipite au pied du Seigneur. Versets 22 et 23. Lorsqu'il aperçut Jésus, il se jeta à ses pieds et le supplia avec insistance. Ma petite fille est sur le point de mourir. Viens, pose les mains sur elle, afin qu'elle soit sauvée et vive. On ne peut qu'être ému par l'amour d'un papa pour sa fillette. On ne peut qu'être frappé aussi par sa foi en Jésus. Pose les mains sur elle et elle vit. Il y a une chose que je trouve peut-être plus émouvant encore, qu'on remarque peut-être mieux. C'est la disponibilité de Jésus. Rappelons qu'il revient de l'étranger, de l'autre côté du lac. On a dit que c'était le pays des Gadaréniens, c'est parti de la Décapole, c'était un pays étranger en fait. Il revient, une foule s'est rassemblée pour l'entendre enseigner, et nul doute que dans cette foule, il y avait d'autres personnes qui avaient un grand besoin de Jésus, besoin de guérison, besoin d'être instruits surtout, et des personnes certainement durement éprouvées. Et Jésus aurait eu toutes les raisons du monde, logiquement, de dire à Jaïrus, écoute, je viendrai peut-être tout à l'heure, mais là, je suis trop occupé. Regarde, il y a une foule entière qui est venue m'écouter. Mais Jésus arrête tout. Et le verset 24 est bouleversant dans sa simplicité. Jésus s'en alla avec lui. Et si nous prenons au sérieux ce que Marc nous a déjà dit, et ce qu'il révèle progressivement de Jésus dans cet évangile, Jésus qui est le Fils de Dieu, nous devons être saisis d'émerveillement et d'émotion en comprenant bien que c'est Dieu ici qui arrête tout et qui suit ce Père pour aller voir sa fille souffrante. Et on est ici au cœur de la plus profonde des aspirations humaines. Dieu se laisse rencontrer quand nous crions à lui. Or, cette disponibilité, on la retrouve de manière frappante également dans l'épisode de la femme atteinte d'une hémorragie. Quelques mots d'abord pour s'assurer qu'on comprend bien un petit peu, là encore, le contexte. Pour vous qui prenez souvent le métro, comme moi, vous avez certainement déjà vu, même quotidiennement sans doute, de ces personnes sans domicile qui parfois, pas toutes, mais parfois font le vide autour d'elles parce qu'elles sont dans un tel état de misère. Ça met tout le monde mal à l'aise. Parfois, elles sentent très mauvais. Eh bien, avec cette femme atteinte d'une hémorragie, on n'est peut-être pas si loin de cette situation. Alors certes, sa misère n'était pas aussi visible de l'extérieur, sans doute, mais dans le contexte semi-rural de la Galilée de l'époque, nul doute que sa situation était connue. On ne peut pas vraiment être anonyme dans ce contexte. Et c'était une situation profondément honteuse. L'hémorragie dont il est question, et à peu près tous les commentateurs sont d'accord pour dire, la manière dont les choses sont décrites, que c'est très vraisemblablement une hémorragie utérine qui, en plus de la souffrance physique, rendait cette femme rituellement impure, selon la loi de Moïse, en occasionnant en quelque sorte des règles permanentes. Et ça voulait dire, selon la loi de l'application de la loi de Moïse, que personne n'avait le droit de la toucher, qu'elle n'avait pas le droit de participer à la vie religieuse et sociale. Normalement, c'était que quelques jours dans le mois, mais là, c'était du coup en permanence. sans doute privés d'une façon ou d'une autre de vie familiale également, on s'est retrouvé dans une situation d'exclusion totale. Et donc on doit être frappé par le contraste de circonstances au sens large entre cette femme et celle de Jaïrus, notable respecté, chef de la synagogue, quelqu'un qui était bien vu. Mais les deux ont quelque chose en commun, c'est qu'ils ont épuisé leur recours. Dans leur situation de souffrance, il ne reste que Jésus. Alors notre femme est prête à tout, même à un geste qui semble irrationnel. Verset 27, elle entendit parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle se disait, même si je ne touche que ses vêtements, je serai guérie. On remarque que, comme Jaïrus, il y a une certitude. Ce n'est pas sans importance pour nous. Il y a une assurance. Si je vais vers Jésus, je serai guéri. Et là, à nouveau, la disponibilité de Jésus doit nous saisir. Et elle surprend plus dans le contexte immédiat, parce qu'il y a urgence pour aller au chevet de la fille de Jaïrus qui est sur le point de mourir. Peut-on imaginer que Jésus va prendre le risque de laisser l'enfant mourir pour savoir qui dans la foule a touché son vêtement? Il y a quelques mois, notre frère Paul Harrison avait prêché sur le texte parallèle dans l'évangile de Matthieu pour raconter aussi cet épisode et avait vraiment mis l'accent sur cette attente du Père qui dit mais il faut y aller, il faut y aller. Mais Jésus est le maître du temps. Il fait les choses selon son agenda et non le nôtre. Et son agenda, c'est l'agenda de Dieu. Et là encore, alors que la femme vient de le toucher, il arrête tout. Alors il y a une part de mystère à n'en pas douter dans les versets 29 et 30. On ne peut pas tout expliquer. La femme est immédiatement guérie. Elle le sent. C'est la finesse avec laquelle le texte décrit est frappante. Elle sent que quelque chose s'est passé en elle, qu'elle est guérie. Et Jésus, quant à lui, se rend compte qu'une force est sortie de lui, nous dit le texte. Mystère à la fois de l'incarnation, la puissance de vie divine qui se manifeste en Jésus. Mystère aussi de l'humanité de Jésus qui ressent, qui comprend, qui perçoit les choses en tant qu'homme, en acceptant les limites humaines. Je crois que le texte, dans la lecture naturelle du texte, nous amène bel et bien à conclure que Jésus, dans son humanité, ne sait pas qui l'a touché. Mais ce n'est pas ça qui doit nous frapper le plus, me semble-t-il. Ce qui doit nous frapper, c'est que Jésus n'accepte pas d'être réduit à un simple guérisseur. Il n'est pas venu en premier lieu pour faire des miracles, on l'a déjà vu, mais pour entrer en relation avec des hommes, des femmes et des enfants. Et qu'est-ce qu'il fait au verset 30 ? Qui a touché mes vêtements ? Les disciples lui disent, mais enfin, tu plaisantes, tu es plein milieu d'une foule qui te presse de toutes parts, tout le monde te touche. Qu'est-ce que tu veux dire ? Mais la femme, elle sait de quoi il s'agit. Verset 33, la femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds, comme Jaïrus, et lui dire toute la vérité. C'est étonnant de voir que comme les disciples effrayés après que Jésus a calmé la tempête, comme les gadaréniens effrayés après la délivrance de l'homme sous l'emprise d'un démon, eh bien la femme est comme effrayée par la guérison qu'elle vient de recevoir. Elle a été touchée par la puissance divine de Jésus et ça l'a remplie de crainte. La crainte qu'on ressent devant Dieu. Et elle lui dit toute la vérité, verset 30. Et la réponse de Jésus est magnifique. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Pars dans la paix. Sois guérie de ton âme. Dans le passage de l'affection avec lequel Jésus dit les choses. Ma fille, et puis il dira à la fillette plus tard, jeune fille, mademoiselle, lève-toi. Talita, petite fille. Ce qui a été décisif pour cette femme, c'est qu'elle a répondu à l'appel de Jésus. Sa compréhension de qui il est et de son œuvre était pourtant sûrement très limitée. Mais elle a répondu à son invitation de le rencontrer. Et le texte montre bien, et c'est important de le souligner, que ce n'est pas le manteau de Jésus qui l'a sauvé. C'est pas dans un truc superstitieux comme ça. C'est sa foi, verset 33. Et c'est ce que Jésus dit, ta foi t'a sauvé. C'est sa compréhension, comme Jaïrus, que Jésus avait lui seul les ressources pour ramener la vie là où il n'y avait que la misère, la souffrance et la mort. Dieu a été disponible pour son peuple. Il a été disponible pour Jaïr. Il l'est pour nous, entièrement, sans restriction. Il nous appelle à venir à lui, pour lui confier notre vie, si nous ne l'avons pas encore fait. Mais aussi pour nous qui sommes déjà les disciples de Jésus, pour lui apporter toutes nos situations douloureuses, nos impasses, nos souffrances et nos honte. L'objection qui pourrait être émise ici est que l'expérience montre que nos épreuves ne se terminent pas toujours aussi immédiatement et à nos yeux aussi bien que celles de ce texte. Et je reviendrai un instant tout à l'heure sur cette question. Mais notons déjà que ce que nous devons retenir en premier lieu de la foi de Jaïrus et de cette femme n'est pas la résolution de leur situation. Pas la première leçon de ce texte, mais c'est plutôt leur confiance en la puissance de Dieu, de Jésus, qui n'est jamais menacé par nos épreuves, jamais menacé par nos impossibles. Et ça nous amène à notre second point, le Dieu de l'impossible. Tout le monde connaît cette expression prêtée à Napoléon, impossible n'est pas français. Belle expression, ça sonne bien. Alors quelques minutes de vie en France suffisent à montrer que c'est complètement faux. Il y a plein de choses impossibles en France, mais plaisanterie à part, pas seulement en France. En fait, dans notre condition humaine, il y a beaucoup de choses impossibles. La vie humaine est faite de beaucoup d'impossibles. Alors souvent, c'est une bonne chose. L'homme étant pécheur, si nous avions des moyens absolument illimités, si tout le monde pouvait toujours faire ce qu'il veut, aller jusqu'au bout de ce qu'il veut faire, ça aurait des conséquences absolument catastrophiques. Mais le Dieu de la Bible, lui, n'est pas soumis aux lois auxquelles nous sommes soumis, parce qu'il est le créateur de ces lois. C'est lui qui est à l'origine de tous les réels. Dans notre texte, nous faisons face à deux situations où les limites humaines sont atteintes. Alors, dans le cas de la femme atteinte d'une hémorragie, on n'est pas face à une limite absolue. Aujourd'hui, il est probable que son mal aurait pu être soigné. Mais le fait est que, dans son contexte, il n'y avait rien qu'elle ou que qui que ce soit pouvait faire pour que son terrible mal prenne fin. Et Marc insiste sur cet aspect impossible. Verset 26, elle avait beaucoup souffert entre les mains de nombreux médecins, elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Dans l'autre épisode, les choses sont encore plus nettes, parce qu'on fait face à la limite absolue, cette fois, qui est la mort. Et la mort, aujourd'hui encore, nous dépasse. On peut la retarder éventuellement, mais pas là. Et c'est précisément la réaction des gens qui arrivent de chez Jaïrus au verset 35. Ta fille est morte, pourquoi déranger encore le monde ? Alors, il y a une grande brutalité dans cette façon de dire les choses, hein. On est loin de la cellule de soutien psychologique ici. C'est choquant de brutalité. Mais dans l'absolu, leur propos est logique. Pourquoi déranger le maître ? Jaïrus. Vous entendez, c'est un maître, c'est un enseignant. La mort, ça ne peut rien. Il n'y a plus rien qui puisse faire pour t'aider. Et on les comprend, on comprend cette réaction. Dans le fond, dans la forme, pas beaucoup, mais dans le fond, oui. Ils ont raison dans tous les scénarios, sauf un. Celui où Jésus est bel et bien le Fils de Dieu, comme Marc nous l'a présenté dès le début de son évangile. Or, pour nous aussi, en 2018, si Jésus est bien le Fils de Dieu, s'il est bien Dieu fait homme, Dieu fait chair, venu à notre rencontre pour nous réconcilier avec Dieu, ça change tout. Ça change tous les scénarios qui nous semblaient si logiques. Toute notre construction de ce qui semble naturel et logique, que ce soit pour notre vision du monde, mais pour notre vision de notre propre vie, ça change tout si Jésus est véritablement celui qu'il dit être. Et la réponse de Jésus va au cœur du sens de ces deux incidents. Et de ce que Marc, je crois, veut qu'on retienne avant tout. N'aie pas peur, verset 36. Crois. On note que Jésus ne dit pas « Ne me sous-estime pas, tu vas voir quoi je suis capable. » Jésus n'est pas un magicien. Sa puissance est la puissance de Dieu. C'est la puissance qui est à l'origine de la vie. Et ce qui va être décisif pour Jaïrus, c'est de croire que Jésus est bien investi de cette puissance divine, une puissance qui n'est pas soumise à nos limites humaines, qui n'est pas menacée par nos souffrances humaines. En lisant le dénouement de l'épisode de la fille de Jaïrus, on doit être à nouveau bouleversé si on croit que Jésus est bien Dieu avec nous, le Fils de Dieu. D'abord, un détail intéressant, assez frappant, c'est que Jésus le prend avec lui, de Pierre, Jacques et Jean. Je ne sais pas si vous voyez une autre scène dans les évangiles où Jésus le prend avec lui, que Pierre, Jacques et Jean, c'est lorsqu'il se dévoile à eux, lorsqu'il est transfiguré sur la montagne, et ainsi ils reçoivent un aperçu de qui il est vraiment, de sa gloire. Et d'ailleurs, il leur dit juste après, ne parlez pas jusqu'à la résurrection. Cela nous laisse entendre, je crois, qu'ici aussi, Jésus révèle sa divinité. Mais c'est à ses disciples, ses trois disciples déjà, qu'il la révèle avant tout. Et même pas à tous ses disciples, donc, mais à ceux dont il est, semble-t-il, le plus proche. Au verset 39, c'est Dieu, à nouveau, qui a l'autorité de contester la mort de la fillette. Dieu peut contester la mort. Si Dieu décide qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle dort, eh bien elle dort. Et les moqueries compréhensibles, dans le fond, des témoins n'y changeront rien. Impossible peut être français, mais n'est jamais Dieu. Verset 40, il les fit tous sortir, prit avec lui le père et la mère de l'enfant, et ceux qui l'avaient accompagné. Il a dit, Pierre, Jacques et Jean. Il a pris par la main et lui dit, Talita Kumi, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Comme dans quelques autres passages des évangiles, les paroles prononcées par Jésus en araméen sont tellement gravées dans la mémoire qu'elles sont retranscrites directement. Mais Marc prend soin de traduire que ces lecteurs, ces premiers lecteurs qui lisent le grec, ils leur traduisent. Cela signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Mais un indice d'authenticité de plus qui se porte cette parole est resté dans la mémoire. Tout comme d'ailleurs le nom de Jaïrus. Donner le nom d'un des chefs de la synagogue, intervenu seulement quelques décennies auparavant, n'avait aucun sens si c'était une histoire fictive. Jeune fille, lève-toi. Par sa parole, Dieu a créé l'univers. Il a suffi que Dieu dise que la lumière fut, il y a eu de la lumière. Par sa parole, Dieu ordonne à une jeune fille morte de se lever. Il a autorité sur la mort. Même elle, notre limite ultime et incontournable, ne peut pas le reconnaître. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais les gens de l'époque ne croyaient pas plus que nous que les gens ressuscitaient des morts. C'est pas plus normal à l'époque. Enfin, on se dit, ah oui, à l'époque, on croyait n'importe quoi. Non, on voit bien que les gens se moquent quand il leur dit, elle n'est pas morte. Mais Dieu, incarné en Jésus-Christ, n'est pas limité par les limites. Et même elle, la mort, notre limite ultime et incontournable, ne peut pas le reconnaître. Et cette vérité prendra tout son sens avec la résurrection de Jésus. Ici, Jésus intervient dans la vie d'une jeune fille et il lui accorde en quelque sorte un sursis face à l'échéance de la mort, comme il l'a fait à l'une ou l'autre reprise avec Lazare, avec le fils d'une veuve. Nous sommes tous en sursis vis-à-vis de la mort. Sursis plus ou moins long, mais nous sommes tous en sursis. Mais lorsqu'il sort du tombeau, lorsqu'il sortira par rapport à cet incident du tombeau, Jésus montrera qu'il a vaincu la mort pour nous tous et pour toujours. Et on a donc ici un aperçu de ce qui sera révélé plus tard. Un avant-goût de la résurrection. Il me semble probable que ce soit pour cette raison que Jésus ait voulu faire preuve de tant de discrétion après la résurrection de cette fillette, comme après la transfiguration. Étonnamment, il a fait tout le contraire dans l'autre épisode, celui de la femme atteinte d'une hémorragie. Ça aurait pu facilement passer ni vu ni connu, mais Jésus a choisi de rendre la guérison publique, parce qu'il voulait que ce soit une rencontre authentique et pas un tour de passe-passe. Il voulait rencontrer cette femme, et il voulait qu'elle puisse rentrer en relation avec lui par la foi. Mais dans l'épisode de la fille de Jaïrus, Jésus révèle quelque chose qui ne pourra être vraiment compris que plus tard, après sa résurrection. Il est le Dieu de la vie, venu dans notre condition humaine. Et il vient nous inviter à le connaître et à placer notre foi en lui. Alors c'est vrai, je reviens à ce que je disais plus tôt, Jésus ne promet pas de résoudre toutes nos situations immédiatement, comme il l'a fait ici. D'abord, je crois qu'il faut tenir compte du fait que là, Jésus est là, en chair et en os, au sein de son peuple. Et il y a, je crois, une distinction à faire entre la situation dans laquelle nous sommes, où Jésus est bien là, mais vit en nous par son esprit. Et ça change certains aspects, je crois, de la manière dont il intervient dans nos vies, en attendant que nous le voyons à nouveau. Je pense que ce serait trop long et complexe d'explorer plus avant cela ce matin. Mais, je l'ai dit plus tôt, dans la foule qui pressait Jésus, il y avait sûrement bien d'autres personnes malades ou éprouvées. Et ce matin encore, parmi nous, je le sais, c'est même pas une supposition, certains sont éprouvés, et parfois très durement. Alors de quoi avons-nous le plus besoin? Est-ce que ce dont nous avons le plus besoin, c'est de savoir quand et comment notre épreuve va se terminer? Ben nous, on serait tenté de dire oui. Mais ce n'est pas la réponse biblique. Dans ces deux épisodes, Jésus a choisi d'intervenir par compassion, c'est vrai, mais aussi et surtout pour nous révéler qui est le Dieu qui s'est rendu disponible et le Dieu qui n'est pas soumis à nos impressions. Et ça, c'est parfaitement vrai pour chacun d'entre nous. Dieu est disponible pour cette rencontre à tout moment. Et Dieu n'est pas soumis à nos impressions. Et le plus décisif pour nous dans la condition présente n'est pas d'échapper à toutes les souffrances et tous les dangers. Le jour viendra où il n'y aura plus souffrance dans un monde nouveau. Et ce n'est pas la condition présente. Mais il s'agit plutôt de saisir la puissance de vie qui est en Jésus. Dieu ne nous retire pas de ce monde déchu, c'est lui qui est venu dans ce monde déchu. Mais comme le dira Jésus ailleurs, il a vaincu ce monde. À la croix et puis en sortant du tombeau, il a prouvé et accompli la victoire de Dieu sur le mal et la mort. Une victoire qu'il déploie en son temps, selon son agenda, et pas le monde. Et donc ce qui est vraiment décisif pour nous n'est pas de savoir ce qui se passera aujourd'hui ou demain, on aimerait bien. Mais le fait de savoir que nous avons été saisis par cet amour et cette puissance illimitée qui nous est pleinement offerte et qui est inépuisable. Alors n'ayons pas peur de la vie présente, mais croyons cela.